à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. On est parti pour vous reparler un peu de cinéma japonais aujourd'hui, toujours dans le but de diversifier un peu la programmation du podcast, et on va pas le faire seul puisqu'on reçoit encore une fois un guest international. Après le Japon, après les États-Unis et le Québec, c'est la Belgique qui envahit Jumpscare aujourd'hui pour nous parler de films d'horreur. Il a une chaîne YouTube de plus de 150 000 abonnés. Il adore la J-Horror, il a réalisé un documentaire sur Takashi Miike et il est à la tête du festival de cinéma horrifique Cinéma Interdit qui prend place à Paris au Club de l'Étoile. C'est évidemment Az l'Épouvantail. Comment ça va, Az?
Bah ça va très bien, et toi et toute l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Très content de tous me rencontrer aujourd'hui, je suis très honoré d'être là.
C'est vrai qu'on ne se connaissait pas de base.
Pour la petite anecdote, sachez qu'un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « J'adore ton travail et j'adore aussi tout ce que tu fais dans Jumpscare, c'est vraiment génial. » Ah bon,
c'est vrai,
merci beaucoup, je fais vraiment un travail formidable dans Jumpscare.
Incroyable, putain, horrible. Écoute, le pire c'est que c'est un épisode qu'on devait faire il y a un petit moment, c'était assez compliqué de t'avoir. Alors, le créneau horaire Belgique-France est assez compliqué, le jet lag. Mais sache que c'est un plaisir de t'avoir avec nous ici. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ton travail, est-ce que tu peux te présenter très brièvement ?
Et je pourrais pas le faire aussi bien que tu l'as fait, franchement, t'as déjà tout dit. Bah, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de films d'horreur depuis 7 ou 8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et on peut me croiser dans des festivals un peu glauques aux quatre coins de l'Europe, depuis peu même, au-delà de l'Europe même. Donc j'aime le cinéma d'horreur, surtout quand il nous surprend. Voilà, je dirais ça comme ça.
C'est beau.
Donc du coup, je suis très content d'être là, parce que j'ai l'impression que bon, bah, c'est un peu votre cas aussi, à vous, dans la team Jumpscare. Donc parfait, quoi.
Il y a un fort amour de la déviance, ouais, ici, de plus en plus. Il y a eu la saison assez calme, puis depuis quelques temps... Sachant que la semaine prochaine, on va se taper aussi un truc bien gratiné. Enfin, on va pas leaker encore ce qui va se passer après. Mais bref, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Sont évidemment présents aussi avec nous aujourd'hui la team de Jumpscaros, Amélie du Festival de Cinéma On Vous Ment.
Bonsoir.
Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach.
Salut.
Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis.
Hello.
Mathieu dans la souffrance, en tout cas, il est présent. Le fantôme de Mathieu est avec nous. Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors, quand on t'a proposé de venir dans le podcast, Az, on t'a laissé choisir le film que tu voulais qu'on chronique. Et tu as choisi un certain Gakko no Kaidan, plus connu sous son nom international Haunted School, ou parfois School Ghost Stories, littéralement l'école hantée en français. Un film réalisé par Hideyuki Hirayama, qui réalisera d'ailleurs deux des suites de ce film, puisque ça a lancé une franchise, et bien plus, puisqu'à la base, Haunted School, c'est une série de livres horrifiques pour enfants très populaires au Japon, sortie au début des années 90, et comme son nom l'indique, on y parle d'histoires de fantômes qui prennent place dans des écoles. Haunted School est la première adaptation de l'œuvre originale, et sera loin d'être la dernière, puisqu'elle sera suivie par trois suites en live-action, plusieurs jeux vidéo... plusieurs adaptations en animé et en manga, le film prend place dans une école primaire où une fille appelée Mika disparaît mystérieusement après avoir suivi un ballon de football hanté qui se déplace tout seul et le son de rire dans les toilettes de l'école supposément hantée. Sa grande sœur et ses amis décident de partir à sa recherche malgré les rumeurs d'événements paranormaux et s'aventurent dans l'école. Cependant, ils découvrent bientôt que toutes les rumeurs sont vraies et maintenant ils doivent non seulement retrouver Mika, mais aussi fuir les fantômes qui hantent le bâtiment de l'école. Alors Az, c'est donc toi qui nous as proposé ce film, pourquoi ce film dans le Jumpscare ?
Eh bien en fait, quand tu m'as demandé de choisir un film de J-Horror pour votre épisode spécial, ben, c'était pas facile parce que forcément, bon, y a plein de films que j'aime bien. Et il y en a plein dont je parle, soit dans mes vidéos, soit dans différents projets qui sont encore en cours là maintenant. Et je voulais un petit peu changer des films dont j'ai déjà parlé ou dont je parle tout le temps. Donc je voulais vous proposer quelque chose d'un peu plus obscur, en tout cas chez nous. Hein. Mais de tout de même, selon moi, très intéressant. On verra pourquoi. Et déjà, je voudrais ajouter un petit quelque chose. C'est vrai que le film en soi est adapté des recueils de nouvelles d'un certain Toru Tsunemitsu, et en fait lui c'était un prof Et les histoires qu'il raconte dans ses bouquins, c'est des histoires qui ont été racontées par des élèves, notamment, dans son école, des histoires de fantômes qui, apparemment, étaient alimentées par les élèves eux-mêmes en dehors des cours, quoi. Elles n'étaient pas inventées pour l'occasion, c'était des vraies légendes urbaines. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment parce que on a fait un film d'horreur. Alors, spoiler, c'est un film d'horreur pour enfants, hein.
Oui.
Et ce film d'horreur pour enfants, il est indirectement écrit, finalement, par des enfants. Donc, je trouve, en tout cas, il y a... Bon, les idées, forcément, ont été diluées à force, mais elles proviennent d'enfants à la base. Donc ça, je trouve que c'est un concept hyper intéressant. Et c'est un film que je trouve super bizarre, déjà, parce que c'est pas vraiment un film de J-horror, en tout cas en termes de chronologie, puisqu'il sort avant les films qui vont lancer le boom de la J-horror un peu partout dans le monde. Il sort 3 ans avant Ring, par exemple, de Hideo Nakata. Donc, en termes de temporalité, finalement, il est pas vraiment dans la J-horror, même si, bon... En soi, oui, c'est pas parce qu'il sort 3 ans avant, c'est un phénomène qui dépasse juste Ring. Mais comme c'est le succès de Ring qui a vraiment lancé la vague de J-horror et qui en a fait un mouvement à part entière, bah c'est un petit peu étrange. Ce film-là, il est sorti avant. Mais c'est aussi pour ça qu'il est très différent, parce qu'il ne suit pas en fait les règles des pionniers de la J-horror, de ceux qui auront permis de lui donner ses grandes lettres de noblesse. Et donc, bah, il nous fait des choses un petit peu différentes, un petit peu plus spéciales. Donc, par exemple, c'est quand même un film de J-horror où on a un bestiaire très particulier avec des monstres parfois vraiment, oui, vraiment haut en couleur, littéralement. Et ça, on n'a pas l'habitude d'en voir dans la J-horror, qui est très, très sobre, plutôt à ce niveau-là. Mais c'est aussi un film... comment dire ça, sans trop partir dans des monologues sans fin.
Tu peux.
Ok, parfait. Il fallait pas me dire ça, mais tu me l'as dit.
Allez, calmez-vous correctement. Ça va durer pour un moment là.
En fait, on pourrait plus ou moins donner la paternité de la J-horror à un mec qui s'appelle Chiaki Konaka, qui est pas un gars très connu chez nous en Europe, parce que c'est pas un réalisateur, c'est plus un scénariste, et même au-delà de ça, c'est plus un théoricien du cinéma. C'est un gars qui a écrit des théories sur qu'on devrait suivre selon lui pour réussir à faire peur à travers des films. Et c'est son travail qui a été appliqué quasiment à la lettre pour des films comme Ringo ou Dark Water de Hideo Nakata. Et c'est pour ça, notamment, que c'est aussi efficace. Il a écrit un livre, donc, Chiaki Konaka, sur comment faire peur au cinéma, qui a été un best-seller au Japon et aussi en Chine. Et voilà, lui, il a plus ou moins inventé les règles qui ont permis à la J-horror de terrifier l'Europe quelques années après son passage au Japon, parce que nous, les Européens, on était dans une période complètement différente du cinéma d'horreur. On était dans l'ère du slasher fantastique un peu marrant ou du slasher à la Scream, on va dire. Il y avait plus tant de films d'horreur vraiment effrayants à ce moment-là en Europe. Et si on a pu être terrifié par des Ring, des The Grudge ou autres films d'horreur japonais ou le remake américain, tout ce que vous voulez, c'est en grande partie grâce à Chiaki Konaka. Le film Haunted School, il ne suit pas ce travail-là. Et franchement, ça se voit. C'est-à-dire que déjà, ce n'est pas le but forcément d'être terrifiant, en tout cas pour des adultes. Le but, c'est de faire peur à des enfants, mais aussi un petit peu de les émerveiller, hein, en tant que film d'horreur pour enfants. Et ça se voit, hein, y a plein d'idées qui sont là. Y a du mystère dans Haunted School. Y a pas que de la terreur ou du cauchemar. Y a un petit peu de fantaisie aussi. C'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Et il y a plein de règles de Chiaki Konaka qui ne sont pas du tout respectées. Des règles qui sont pourtant vraiment majeures, comme par exemple celle qui veut que... Quand tu fais un film d'horreur, selon Chiaki Konaka, il est interdit que la caméra se place du point de vue des monstres. Et pour, selon lui, ça, c'est interdit. Parce qu'à partir de ce moment-là, le spectateur, il peut s'identifier à ce point de vue-là et il n'a plus trop peur alors du monstre, puisqu'il voit à travers ses yeux, finalement. Il y a une espèce de lien qui se fait entre le spectateur et la menace. Et dans Haunted School, c'est le genre de choses qu'on fait. On s'en fiche un petit peu, c'est pas grave. Et c'est vrai que ça avait été une des grandes critiques lors de sa sortie, que ce soit au Japon ou aux États-Unis. Chez nous, la sortie a été vraiment soit confidentielle, soit carrément il n'y en a pas eu. Mais aux États-Unis, il y a eu une sortie et les critiques disaient que, bon, malgré plein de bons points, le film ne fait jamais peur selon eux et la menace, il n'y a jamais vraiment de menace en fait pour eux. Bon, on sera d'accord ou pas avec, mais toujours est-il que c'est un avis qui était vachement répandu et qu'on peut mettre du coup en opposition forcément à des films comme Ring ou tous ces films de fantômes japonais où là, il n'y a que ça, de la menace surnaturelle assez terrifiante. Donc ça, c'est pour moi toutes des spécificités qui font que c'est intéressant de parler de Haunted School parce que c'est un film très particulier au sein de la J-horreur, mais même au sein de l'horreur japonaise dans son ensemble. Aussi parce que je trouve, et là je pense que, allez, j'ai bon espoir qu'on se rejoigne tous là-dessus, qu'en termes d'imagerie, le film est fou, quoi. Le film, il tente plein de choses.
Oui.
Et même en termes de type d'effets spéciaux différents, c'est vraiment dingue, quoi. Il y a quelques effets numériques. Alors, on se croirait parfois dans un film des années 80, alors qu'il est sorti 15 ans plus tard, mais ça lui ajoute limite un petit charme. En tout cas, pas piqué des hannetons, comme j'aime bien dire, super expression. Il y a un côté aussi, il y a pas mal de prothèses ou de moulages un peu cool. Il y a de la stop motion. Vraiment, on a de tout dans le film en termes d'effets spéciaux. Et du coup, bah, c'est hyper varié d'une scène à l'autre. T'as des fantômes qui sont complètement différents les uns des autres. Enfin, le film n'arrête pas de te surprendre par ses idées. Et comme c'est un film pour enfants, on n'a pas non plus peur d'être ridicule. Et ça se ressent. Alors, je vais le dire, il y a par exemple un fantôme vraiment très spécial dans le film qui est une espèce de singe multicolore qui apparaît dans un halo rose. Donc vraiment, tu te dis, mais c'est quoi cette idée pour un film d'horreur? Ça n'a aucun sens.
Il est splendide.
Il est magnifique.
Il est incroyable. Ce fantôme est incroyable. Donc, alors, clairement, il a fait peur à aucun gamin à l'époque. Ça, c'est sûr. C'est pas possible. Tu te demandes, ouais, ce serait étonnant. Et tu te demandes limite pourquoi les gamins dans le film, ils fuient vraiment. Peut-être que si j'en voyais un devant moi, je fuyais. J'avoue, j'arrive pas à m'imaginer. Mais en tout cas, quand tu le vois dans le film, qu'est-ce que c'est que cette idée? Tout comme l'idée de ce melon, de cette pastèque géante qui apparaît. Tu te dis, mais c'est incroyable.
C'est
quand même de penser à ce genre de choses.
Dès le début du film, t'as une pastèque méchante.
Le pire, c'est que l'introduction, je la trouve exceptionnelle. C'est-à-dire que t'as un vrai commencement de film d'horreur avec ce jeu, avec les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner. On est dans une espèce de salle des profs. Donc, c'est la nuit, l'école est fermée. On a le concierge, l'homme à tout faire de l'école qui, visiblement, était probablement en train de nettoyer ou quoi. Et il y a un téléphone qui sonne. Il vient, il répond. Et il y a une petite fille qui lui parle. Donc, là, après, ça raccroche. Il se dit, ah, c'est une blague. Puis, il y a un deuxième téléphone un peu plus loin dans la salle des profs qui sonne. C'est toujours la même petite fille. Et puis, il y a un troisième. Enfin, je trouve que l'intro, elle est vraiment géniale à ce niveau-là en termes d'ambiance. Et puis le fantôme, c'est un putain de fruit géant, quoi. Donc tu dis, mais je suis où, là, déjà? Moi, j'avais très peur, quand j'ai vu cette scène d'intro, j'avais très peur que le film soit vraiment nul, quoi. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, non, le film, il est... Je sais pas, il arrive à jouer avec tes attentes de façon hyper... hyper surprenante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crois qu'il va se passer un truc... Il se passe plus ou moins ce truc-là, mais de façon vraiment inattendue. Donc, il arrive tout le temps à retourner un peu tes attentes et à les transformer, sans être non plus un film révolutionnaire. On est dans un mélange entre les Goonies et Poltergeist, un peu. Tu sais, il y a un peu ce côté-là. Donc, c'est hyper cheesy. J'adore. Et en fait, ça, c'est aussi un film que... Enfin, je sais pas, qui respire la nostalgie un peu, tu sais, il y a une petite lumière au début, à chaque fois qu'on est dans l'école pendant la journée, il y a une petite lumière très été, bah d'ailleurs oui. Ça se passe, c'est les grandes vacances qui vont commencer, et je sais pas, c'est une période qui rappelle l'enfance, c'est les grandes vacances scolaires, t'as ce groupe de gamins qui...
Il fait chaud, il fait beau.
Ouais, il y a un truc vraiment agréable en fait, tu le regardes, même si t'as pas connu ce film durant ton enfance, et c'est mon cas, moi j'ai découvert ce film, j'étais déjà très adulte, hein. franchement, ça te... y a un petit parfum de nostalgie quand même, le film arrive très bien à te procurer ce sentiment-là, et ça je trouve ça assez fort, mine de rien, surtout que ça reste un film très japonais, donc très ancré dans le Japon des années 90, notamment par rapport à ce côté légende urbaine. C'est-à-dire que, en fait, quand le film sort, le cinéma d'horreur japonais, il est vraiment limite au point mort, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça fait 20 ans que, à part quelques... Vous avez parlé, par exemple, de Evil Dead Trap. Ça, c'est une anomalie à ce moment-là au Japon. Il n'y a pas beaucoup de films d'horreur. Et quand ils sortent, ils ne sont pas ancrés dans un courant, dans un mouvement particulier, quoi. C'est un peu à chaque fois des...
C'est pas très populaire aussi.
Non, complètement. En fait, depuis l'effondrement des studios dans les années 70, le cinéma d'horreur s'était considéré comme un genre un peu désuet, un peu obsolète, quoi. Du coup, il s'est cantonné à la télévision, notamment, où là, ça restait assez populaire, parce que c'était, entre guillemets, la ménagère qui regardait ça, un peu, tu sais, comme tous ces trucs un peu mystérieux. Ça, on considère d'ailleurs au Japon que l'horreur est un genre féminin, hein. Même dans le manga, on considère que c'est un genre pour les filles. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes qui lisent de l'horreur, mais il est plutôt connoté féminin, comme les mangas de romance, par exemple. Mais par contre, là où l'horreur est hyper présente, c'est dans la bouche des gens. C'est-à-dire que les légendes urbaines, à cette époque au Japon, elles sont hyper populaires. Et notamment dans les cours de récré. Dans les cours de récré, là, les gamins, ils parlent de plein de phénomènes. Par exemple, Anako-san, la fille des toilettes, Anako-chan, qui est cité dans le film, hein, notamment, on parle du personnage de Hanako, c'est les élèves qui parlent de ce personnage au professeur qui leur dit qui est Hanako, dans quelle classe est-elle. En fait, on fait référence évidemment à la Hanako de la légende urbaine. Et le personnage de petite fille habillée en rouge qu'on voit, ça pourrait être Hanako, même si dans les légendes urbaines, elle est bloquée dans les toilettes du troisième étage de mémoire. Là, ici, elle se balade un peu plus. Mais il y a également Kushisake Ona, la femme à la bouche fendue qui apparaît dans le film. Et en plus, avec un maquillage vraiment pour le coup... Si je l'avais vue enfant, elle m'aurait sans doute terrifié.
Elle est creepy, elle est super creepy.
Ouais, pour un film pour enfants, elle est... En plus, elle apparaît comme ça, il n'y a rien qui la met en place. Il n'y a pas de transition, et cette scène est vraiment hyper horrifique, je trouve, pour un film pour enfants. Je la trouve vraiment terrifiante. C'est une infirmière scolaire, il me semble.
Ah, je suis d'accord.
Ce fantôme, il marche très bien.
Mais de ouf, et en plus, comme tu dis, elle n'est pas introduite, et puis une fois que ça s'en est passé... On la voit plus trop, quoi. C'est comme plein d'autres fantômes. Et en fait, c'est ce côté-là que j'aime bien. C'est vraiment les légendes urbaines. Il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, quoi. C'est inexplicable et c'est ça qui fait le charme de toutes ces histoires-là. Et en plus, Kushisake Ona, on ne nous la présente pas. On ne dit même jamais son nom. On ne nous dit même jamais Kushisake Ona dans le film. Et elle va dire sa fameuse phrase « Est-ce que tu me trouves belle ? Est-ce que je suis belle ?» C'est sa fameuse phrase dans la légende. Moi, ça s'arrête là. Tous les gens qui connaissent la légende, ils l'ont reconnue. Et les gens qui ne la connaissent pas, ils ont pris leur petit coup un peu de « Ils ne sont pas bien, quoi. » Surtout si c'est des gamins, je pense que là, pour le coup, ça devait être assez effrayant. Et il y a deux, trois autres moments comme ça dans le film où, pour les gamins, c'est trash quand même. Moi, j'adore. Il y a une scène, par exemple, de ce mannequin pour école avec des organes, tu sais, qui sont censés apprendre le corps humain aux enfants. Et il y a une scène où ces organes deviennent, entre guillemets, vrais. Et putain, mais c'est un peu trash, quoi. C'est un peu gore comme scène, c'est pour graphique. Un enfant.
Ça marche trop bien.
Voilà, graphiquement, il y a plein de bonnes idées. De ouf. Il y a par exemple aussi les scènes avec tout des animaux à disséquer, on suppose, dans des bocaux, qui commencent à bouger. Je trouve que ça marche à mort, c'est trop bien. Mais par contre, c'est un peu gore, quoi. C'est quand même des grenouilles au ventre ouvert avec leurs tripes à l'air qui commencent à bouger, à faire des bruits et tout. Mais moi, j'adore l'idée.
Surtout que la personne qui gère les effets spéciaux du film n'est même pas quelqu'un qui bosse dans les VFX de base, dans les SFX, pardon. C'est un character designer, Katsuya Terada, qui est le mec qui a designé tous les personnages de Blood, The Last Vampire, pour les connaisseurs qui nous écoutent. C'est quelqu'un qui n'est pas trop dans le milieu, en fait, et qui faisait ça un peu aléatoirement, de ce que j'ai regardé. Et pour une deuxième expérience, sans être sûr, c'est hyper bien foutu en termes de maquillage.
Non, complètement. Non, c'est hyper étonnant, et en plus, il y a des trucs qui sont quand même, j'irai pas jusqu'à dire avant-gardiste parce qu'il faut pas pousser, mais quand même un petit peu... inattendu pour l'époque, encore une fois dans ce contexte japonais, comme par exemple il y a un moment où il croise un personnage qui est géant, et je trouve que la scène, c'est pas forcément la mieux faite du film, mais je trouve qu'elle est, enfin encore une fois, c'est inattendu, quoi, comme idée de, et je trouve que je crois que c'est de la superposition là qui font beaucoup, ça marche quand même bien. Et c'est en fait ce truc de se dire, on imagine, voilà, ils ont pris plusieurs des histoires, des recueils de légendes urbaines issues des histoires de ce professeur-là. Ils se sont dit, on va toutes les adapter dans un film, toutes ces légendes-là. Et c'est pour ça qu'on a en fait, c'est comme si on avait une succession de petites scénettes dans le film où les enfants vont passer d'une scène à l'autre, où à chaque fois il y a un personnage différent, il y a un fantôme différent. Et puis finalement, il y a très peu d'attaques en tant que telles. La plupart des fantômes, ils ne s'attaquent pas vraiment. Et ça, j'aime bien aussi ce côté-là, c'est-à-dire que dans les légendes urbaines japonaises et dans plein d'autres légendes du même genre, les fantômes ne sont pas toujours méchants, en fait. Ils sont là. Et ça me fait, par exemple, penser aux Scary True Stories. C'est des espèces de films à sketch japonais sur lesquels plein de grands noms du cinéma d'horreur japonais se sont fait un peu les dons au début de leur carrière, et notamment Norio Tsuruta qui en avait fait pas mal. Et c'était souvent des petites intrigues où tu avais un fantôme qui apparaissait dans un moment du quotidien, mais il n'y avait quasiment jamais d'attaque. C'était vraiment juste un personnage qui se balade, par exemple, dans une piscine, une piscine vide, et en fait, il y a un fantôme qui arrive, et il y a la rencontre entre un vivant et un mort. Souvent, le fantôme, il ne parle pas. Souvent, dans le cinéma japonais, les fantômes, normalement, ils ne parlent pas. C'est d'ailleurs une des grandes règles de Chiaki Konaka, parce qu'il trouve que si tu fais parler ton fantôme tout de suite, le fantôme, eh ben, il a l'air plus humain, donc il fait moins peur. Mais il n'y a pas de confrontation. L'humain a peur, donc il fuit, mais il n'y a pas d'attaque. Et en fait, c'est très japonais, ça, comme conception, parce que nous, contrairement au cinéma américain, où, selon moi, pour que le film y vive, il faut qu'il y ait confrontation, il faut qu'il y ait conflit, et ben dans le cinéma japonais, ce n'est pas du tout le cas, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend aussi toutes ces histoires plus réelles aux yeux des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc un peu grandiloquent, de combat contre un fantôme ou quoi. C'est juste une rencontre un peu surnaturelle qui dure quelques secondes, souvent, sur une histoire de quelques minutes. Et souvent, la plupart des épisodes... Il y a beaucoup d'épisodes de Scary True Stories qui se passent dans des écoles. Et d'ailleurs, Norio Tsuruta, il a réalisé un film qui s'appelle à l'international An Haunted School. Donc ça ressemble un peu, il a juste rajouté Anne devant. Et c'est aussi un film qui se passe donc dans une école. Et il a fait plein d'autres trucs comme ça. Il a fait plein de films qui se passent dans des écoles parce que c'est devenu limite un sous-genre au Japon. Les histoires de fantômes qui se passent dans des écoles, c'est un truc hyper populaire. Quoi. Encore aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc, ouais, c'est ça. Et puis même quand t'es... Enfin, je sais pas, même... En tant qu'adulte, les trucs qui se passent dans des écoles, t'as quand même toujours ce petit sentiment un peu de nostalgie. On a tous été à l'école, finalement. Tous. Donc,
tout le monde connaît le lieu, ouais. Tu peux pervertir le lieu, tout le monde va capter, en fait. Quel que soit le pays.
Je pense. Moi, par exemple, j'étais dans une école catholique, la Sainte Trinité à Bruxelles. Et en fait, il y avait des sœurs qui vivaient dans l'école. Alors, je peux te dire que pour nous... dans la cour de récré, il y avait des légendes un peu terrifiantes par rapport à ça, parce qu'il y avait une aile de l'école qui était réservée aux sœurs, des sœurs hyper vieilles, tu vois, pour nous, gamins de 7-8 ans, c'était un peu étrange d'imaginer ça, quoi, donc...
Des démons.
Bah, pas forcément des démons, mais en tout cas, quand on en discutait, c'était... en plus, c'était hyper gentil, les pauvres, mais nous, on était un peu en mode, qu'est-ce qu'il y a, attends, elle est dans les appartements, des sœurs...
C'est à cet âge-là où l'imagination aussi est carbure.
De ouf, mais du coup, quand moi, je regarde un film comme Haunted School, ça me rappelle un peu cette vibe-là, quoi. C'est-à-dire que si mes amis et moi, on avait pu se balader la nuit dans l'école, dans les appartements des sœurs, bah, c'est ça que ça me rappelle un peu, ce sentiment-là. Et je pense que tout le monde, bah, comme tous les films un peu à destination des enfants, je crois que tout le monde, il y a ce côté où tu peux t'identifier un peu au personnage ou quoi. Maintenant, je ne vais pas essayer de faire passer le film pour un film sans défaut. Je pense qu'il y a pas mal de défauts au film, mais moi, j'arrive à tous les oublier. C'est pour ça que j'avais envie de vous le proposer. Notamment, et là, pour le coup, c'est pour moi un des plus grands points forts du film. À chaque fois que je le revois, bah, moi, la fin, elle m'émeut un petit peu. Je suis toujours un petit peu ému... à la fin du film, alors qu'il y a des trucs qui sont exploités bizarrement. Je sais pas si on peut spoiler, par exemple, dans le film. Vous pensez que oui ?
La fin, peut-être pas, parce que je pense que ça va piquer l'intérêt de quelques personnes.
Ok. J'aimerais juste, du coup... Ah ouais, non, c'est difficile de parler de ça sans vraiment spoiler. Donc, ok, tant pis, mais je veux dire qu'à la fin, il y a un truc qui est émouvant, je trouve, mais qui est pas, qui est pas exploité comme on a l'habitude de le voir, quoi. Enfin, je veux dire, on s'y attarde, mais déjà, on s'y attarde un moment dans une scène où il n'y a pas de musique, où il y a juste la caméra qui passe d'un visage grave à l'autre de nos protagonistes. Je trouve ça super bizarre comme idée et je trouve que ça marche à mort en termes d'émotion. Quoi, c'est... Enfin, je sais pas, j'irai pas plus dans les détails puisque sinon je révélerai le pot rose. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui nous fait passer par un peu toutes les émotions. On rit devant ce film, on est surpris à plusieurs reprises. Il y a deux, trois moments un peu effrayants, notamment le vrai antagoniste du film. Je trouve qu'il est flippant, je trouve que c'est un monstre qui est bien fait. Je trouve que la transformation, elle est hyper cool. Il y a un petit côté de film de John Carpenter en moins élaboré, hein, en moins élaboré, moins réussi peut-être. Et je trouve que, cet antagoniste, je trouve qu'il marche super bien. Et la confrontation finale, en plus, dans un décor d'école inversée, ou le plan, enfin, tous ces moments-là, je les trouve géniaux. Et du coup, il y a toutes ces idées géniales, elles me permettent d'oublier les idées un peu moins réussies. Et les côtés qui ont un peu plus vieilli. Et peut-être aussi le jeu des acteurs qui est. Ah, c'est des enfants, mais il est souvent approximatif, je trouve. Surtout qu'en plus, c'est aussi une joue à la japonaise où on n'hésite pas à exagérer. Alors, quand c'est des enfants qui le font, je trouve que très vite, on part dans du jeu vraiment mauvais. Mais c'est pas grave, moi, j'arrive à oublier tout ça grâce à toutes les bonnes idées du film. Et je veux dire, même dans les trucs un peu anodins, on a des bonnes idées, comme cette maman célibataire là, qui est garagiste, qui répare des motos, enfin je veux dire, la maman elle est hyper badass, et en plus après quand il faut, elle arrive avec tout son gang de Bosuzuku là, pour aller aider les personnages principaux, enfin c'est une scène hyper étrange quand tu réfléchis, mais le personnage il est génial, et c'est hyper inhabituel comme personnage, la maman célibataire qui avec son gang de motards là, mais sans être non plus dans l'exagération, c'est pas une meuf qui commence à castagner tout le monde, non, c'est juste une meuf un peu badass, et qui vient chercher son gamin, il y a plein d'idées comme ça que je trouve, elle marche à mort. J'y crois à cette école, je crois à ce personnage de professeur, bref. Alors qu'on est dans un film avec des fruits géants qui attaquent les gens, bah, j'arrive à croire à ce qu'on me propose, et moi je trouve que c'est quand même une belle prouesse. Quoi.
Donc, la conclusion de malade.
C'est un peu ça, et je trouve que ça veut tout dire, tu vois. Si t'arrives à accepter ça,
dit beaucoup.
C'est que le film, il a quand même réussi ce qu'il voulait faire, quoi.
t'aurais pas pu mieux le vendre, je pense. Est-ce que t'as un ou deux mots à dire sur les suites? Parce que j'ai vu qu'il y en avait quatre. Ouais. Est-ce que tu les as vus?
J'ai vu le 2 il y a longtemps, et du coup, j'en ai peu de souvenirs. En plus, c'est le seul qui n'est pas réalisé par le même réal qui est revenu pour le 3 et le 4,
oui,
et qui ne fait pas le 2. De souvenirs, c'était pas très bon, mais je vais pas trop... Ils sont super durs à trouver, en fait. Les suites sont beaucoup plus dures à trouver que le premier, de mémoire. Et en fait... J'en ai très très peu de souvenirs. Mais
même le 1 est pas facile à trouver. Je pense qu'il faut le dire, c'est un film qui est pas trouvable en France, déjà, de base, très facilement.
Il est pas trouvable du tout, en fait, à part en import, tu le trouves pas. Donc,
c'est ça, faut trouver de l'import.
C'est dommage, parce que moi je pense que c'est un film qui est... Parce que souvent l'horreur japonaise, dès que tu sors des titres les plus connus de l'horreur japonaise moderne, et de ces années-là, années 90-2000, ça peut être difficile d'accès pour... c'est de l'horreur souvent très lente, souvent très atmosphérique. Alors moi, j'adore, mais il y a plein de spectateurs, et je le vois dans mes commentaires YouTube, qui détestent. Enfin, ils s'emmerdent, ils disent « Je pense que c'est un film où tu t'emmerdes pas, en tout cas. Tu peux lui trouver beaucoup de défauts, mais pas celui-là. » Donc,
C'est ça. C'est con, parce qu'il y a quand même un public pour ce genre de film. Je suis sûr qu'il y a un éditeur type Spectrum ou Le Chat qui Fume qui se ferait un gros plaisir avec ce film. On en avait parlé un petit peu récemment des sorties asiatiques en France, et c'est con. En Belgique aussi, du coup, évidemment.
Après, nous, on a parfois le marché hollandais aussi chez nous. Quand tu parles néerlandais, forcément, donc c'est pas tous les Belges qui parlent néerlandais, mais du coup, on a des fois accès à plus de films. Mais celui-là, non, à ma connaissance, il n'est pas accessible non plus via ces marchés-là, donc...
Merci, en tout cas, d'avoir si bien vendu le film. On va voir s'il a plu au reste de l'équipe. Mylène.
Eh ben, bien sûr, moi, je suis une enfant des années 90, donc forcément, j'ai été biberonnée par la Terror Mania qui nous a guettés avec tous ces animés, ces séries, comme le dessin animé des Contes de la Crypte, comme la série Chair de Poule, les bouquins Chair de Poule. Dans ces années-là, c'était un vrai phénomène d'avoir peur chez les enfants, chez les 8-12 ans. Et du coup, je pense que ça m'est jamais passé. Et j'avoue que je suis toujours très cliente en fait de cette horreur version enfant, mais qui prend pas les enfants pour des cons. Je trouve que c'est hyper important, même si tu t'adresses à des enfants, de pas se dire que justement il faut leur donner quelque chose de très doudou, faire attention à eux, croire qu'ils sont en porcelaine. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ton film, Az, je l'avais jamais vu, je le connaissais pas du tout. Et ce que j'ai adoré avant tout, c'est que justement il prend pas du tout les enfants pour des cons, et qu'on est un peu dans l'entre-deux. C'est un film qui est pas assez trash pour être pour les adultes, mais du coup il est des fois un peu plus pour les enfants. Je dirais que c'est presque pour un film d'adolescent, en fait. C'est presque entre les deux. Et ouais, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré. Il y a une espèce de train fantôme qui se crée dans ce film. Et comme tu l'as si bien dit, en fait, à aucun moment, on se dit que justement, les fantômes peuvent faire du mal aux enfants. Et je pense que c'est notamment parce que justement, c'est un espèce de train fantôme. Le but, c'est de les effrayer, leur faire peur, limite qu'ils ouvrent à chaque fois une porte pour découvrir un monstre, un effet, vraiment une ambiance... dans une pièce, et donc une petite histoire qui va se dérouler. Et en fait, c'est pas grave s'il y a pas d'impact, s'ils sont pas en danger, donc à part le fait qu'il faut sortir de cette école. Et du coup, je trouve que c'est peut-être pour ça que c'est sûr qu'il s'adresse à des enfants, parce qu'il y a pas de danger de mort, et il y a pas cette peur de se dire on peut perdre un personnage. Et comme tu l'as si bien dit, les effets spéciaux, ils sont incroyable. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 12 ans, de me retrouver devant un Fais-moi peur ou un Chair de Poule, et de découvrir un peu tous les effets qui arrivaient. Notamment, j'ai beaucoup aimé donc le modèle anatomique, que j'ai trouvé très cool. Tu l'as mentionné, et ça m'a fait penser à un film d'animation qui est sorti en 2012, si je me trompe pas, qui s'appelle After School Midnighters. Et justement, c'est des enfants qui sont coincés dans une école la nuit, et les modèles anatomiques vont se réveiller et tout, leur faire la vie dure, il y a des fantômes. Et donc ça m'a fait penser à cette ambiance-là, j'ai trouvé ça très cool. Et il y a aussi la scène avec l'orchestre, les espèces de fantômes un peu genre zombies qui se retournent. Et vraiment là, je me suis revue en tant qu'enfant, et encore une fois, j'étais là, waouh, qu'est-ce qu'ils vont me sortir d'autre, qu'est-ce qui va apparaître, alors que pourtant j'ai 30 ans, et je suis plus du tout le public, mais ça m'a remis dans une espèce de nostalgie.
Je croyais que tu avais 22 ans, Mylène.
Non, c'est Lily qui a 22 ans. C'est elle qui ment sur son âge.
Pardon.
Je ne mens pas sur mon âge, moi. Eh non.
Non.
Mais du coup, ça m'a fait rire parce que, en fait, dans les années 90, encore une fois, c'est l'énorme boom de produits donc horrifiques pour enfants. Et le film date de 95, donc on est pile dans cette mouvance-là. Et même si, du coup, il a une vibe très années 80 et qu'il est donc vraiment des effets qui font d'un autre temps, ben, bizarrement, il s'inclut bien dans cette mouvance-là de tout ce qui est produit horrifique pour enfants à la... presque Ghostbuster, on va vraiment avoir des trucs très spooky. Enfin, moi, c'est un film que j'aurais kiffé voir en tant qu'enfant pour Halloween. Vraiment, ça aurait été un pur plaisir de le mettre à mes potes, juste pour se faire peur. Et encore une fois, bah, du coup, c'est un gros coup de cœur, c'est une superbe découverte. Comme tu l'as si bien dit, ça fonctionne trop bien. Les légendes urbaines, c'est à chaque fois des petits moments spooky. Les monstres sont trop cool. Et voilà. Franchement, je suis déçue de ne pas avoir vu les suites parce que pour le coup, ça m'a bien intriguée. Et encore une fois, c'était un univers que je connaissais pas du tout, donc j'avais vraiment envie d'en voir plus. Et c'est vrai que les suites, elles sont complètement introuvables. Donc ça, c'était la grosse frustration durant le visionnage. Et t'as dit un truc qui m'a fait marrer, donc du coup, t'étais revenu sur le côté un peu improbable de la scène d'intro. Moi, je trouve que c'est pas gênant, parce que justement, comme pour Aosu, on parle de récits d'enfants. Et du coup, le fait qu'on ait des trucs qui sont un peu what the fuck et qui fonctionnent pas toujours, pour moi, ça colle, parce qu'il y a un peu ce côté-là, justement, récits d'enfants qui fonctionnent pas toujours, en fait, parce qu'on n'est pas encore assez vieux pour construire une narration totalement cohérente. Et du coup, on reste quand même dans un espèce de cauchemar éveillé, et je pense que c'est ce qui donne aussi son charme au film et qui fait que ça fonctionne. Ça, plus les effets qui sont hyper quali et des personnages qui sont très pépites, justement, comme Saint John Mare, comme tu l'as dit, c'est personnellement mon personnage préféré. Donc voilà, c'est un total Millen Movie. Il y a des lumières de partout, des fantômes, ça crie de partout, c'est une maison hantée, enfin une école hantée, incroyable. Et du coup, voilà, c'est un petit coup de cœur pour moi, j'ai trop kiffé de découvrir.
Et j'aimerais ajouter un petit truc par rapport à ce que tu dis, qu'effectivement, le côté un peu fou de certaines scènes, comme celle du fruit géant, bah, ça s'explique parce que bah, c'est des histoires d'enfants. Mais mieux encore, je trouve que l'humour du film, c'est vraiment un humour d'enfant. Alors on va rigoler sur des scènes où on va faire pipi dans l'école, on parle de vomi, machin, c'est des trucs un peu ha-ha-ha. Mais en plus, le film, il arrive à utiliser ces trucs-là pour comme des éléments un peu dramatiques. Ça a un sens dans l'histoire plus tard, comme par exemple la scène où ils vont faire pipi dans l'école. C'est un peu, au début, je vois ça la première fois, non, en tout cas, j'étais un peu, c'est quoi cette scène? Mais en fait, plus tard, bah, ils se font engueuler par le fantôme d'un concierge parce qu'ils ont pissé dans l'école. Donc il y a un truc qui est, c'est utilisé, quoi. C'est assez marrant. Et même, par exemple, les blagues à base de vomi, en fait, bah, ça parle quand même un petit peu de harcèlement, mine de rien. Harcèlement scolaire, ce qui est toujours un gros sujet au Japon, surtout. On donne des surnoms parce qu'il y a deux personnages qui sont appelés par ils se font pas appeler justement, ils sont appelés par leurs autres camarades les frères vomis, parce qu'il y en a un qui a dégueulé une fois quand ils étaient plus, et ça c'est clairement un truc d'enfant en plus de donner ce genre de surnom aux autres pour un truc qui est pas drôle du tout. Mais par contre le film il va jamais non plus faire pointer du doigt les enfants comme même les enfants qui font ça, c'est jamais montré comme quelque chose de méchant ou quoi, c'est un truc d'enfant. C'est vraiment un film qui appartient aux enfants, je trouve. Et il y a cette ambiance. Enfin, ils sont jamais méchants. Ils sont juste enfants, quoi. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Donc, je te rejoins vraiment là-dessus. C'est pour ça qu'on peut lui pardonner des trucs complètement improbables, parce qu'en fait, bah, c'est logique quand tu remets ça dans le contexte du film, quoi. Donc, complètement d'accord. Et trop content que t'aies aimé.
Un Millen Movie de plus, du coup, dans ce podcast, pour changer. Est-ce que Amélie, toi, ça t'a plu? Est-ce que tu connaissais le film, de base?
Alors, non, je connaissais pas du tout le film. Mais par contre, je connais suffisamment Az pour me dire « Ouh là là, qu'est-ce que ça va être encore cette fois ?» Étant donné que la dernière fois, tu m'as montré Muzan E, quand même, je n'oublierai pas.
Si on m'a... Franchement, j'aurais bien aimé vous le proposer, mais c'est pas de la J-Horror, j'aurais triché, quoi.
Oui. Mais du coup, j'ai été très surprise de tomber sur un film d'horreur pour enfants. Je m'attendais à un truc dégueulasse, torture, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est mignon. Moi, il y a un truc qui a fait que j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est inspiré d'un recueil de nouvelles qui rassemble des histoires d'enfants. Et en fait, dans le récit, il y a quelque chose de très éclaté, comme ça, où on a plein d'éléments qui n'ont pas vraiment de lien ensemble.
Ouais, c'est pas très linéaire.
On a beaucoup de personnages, voilà, c'est pas du tout linéaire, c'est presque... Effectivement, tu l'as dit, Mylène, c'est un train fantôme, quoi. Il rentre dans une pièce, il rencontre un fantôme, il crie, il fuit, hop, l'école... c'est par les enfants, il y a une pièce qui s'ouvrait plus, oh là, en fait, ils sont séparés, il faut qu'ils se retrouvent. Et comme ils sont très nombreux, qu'ils se retrouvent, qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble, au début, j'avais un petit peu de mal à comprendre où est-ce que ça allait. J'ai mis super longtemps à capter qu'il y avait des jumeaux, par exemple. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est des flashbacks? Pourquoi il n'était pas là, ce gamin? Des jumeaux habillés pareil, en plus. C'est atroce. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans parce que je cherchais vraiment le sens du truc. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai abandonné, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Je me suis laissée guider par le côté spooky et par les apparitions comme ça des fantômes, sans plus me poser la question de qu'est-ce que c'est, où ça va, qu'est-ce que ça raconte. Non, juste, j'ai suivi comme ça. Et effectivement, il y a des scènes qui fonctionnent très, très bien. Moi, ça m'a fait un peu penser à The Gate style années 80 avec des enfants qui sont confrontés à des trucs horrifiques. Il y a des scènes qui, je trouve, sont vraiment trop bien. Les mains en argile, là, c'est sublime. La classe complètement retournée où il y a tous les meubles au plafond, je trouve que ça, incroyable. Pareil, ça fonctionne super bien. On l'a dit, l'infirmière qui est vraiment une apparition hyper horrifique dans un truc où les fantômes, ils sont plutôt rigolos. Même l'orchestre de fantômes, on est sur la maison hantée de Disneyland, quoi. Niveau de spooky, quoi. Mais du coup, j'ai passé un bon moment au final, même si c'est vrai que cette pastèque au début m'a fait me poser question, genre, qu'est-ce que je vais regarder? Alors que c'est une scène vraiment presque Scream, quoi. Où la petite fille fantomatique, elle dit qu'elle se rapproche, quoi. Je suis dans le jardin, je suis dans la cour, je suis derrière la porte. On se dit, oula, il va y avoir une apparition. On voit le visage qui se retourne et en fait, c'est une grosse pastèque. C'est super drôle, mais ça fonctionne bien en tant qu'humour, mais pas du tout en tant que truc horrifique. Mais c'était pas le but, je pense. Voilà, du coup, en tout cas, pour moi, c'était une belle découverte, malgré son côté un peu fouillis, qui part dans tous les sens. Et même si on avait fait, il y a 15 jours, Evil Dead Trap, qui est finalement un petit peu pareil, avec des gens qui sont enfermés dans un grand lieu comme ça, hanté, même s'il y en a un qui est un petit peu plus hardcore que l'autre.
Ah bon, on dira pas lequel.
Est-ce que Haunted School est pas le Evil Dead Trap des enfants? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais non, voilà, c'était une super belle découverte, même si je trouve qu'il y a effectivement dans le jeu des acteurs des trucs qui sont un petit peu trop ou un petit peu en dessous. Et les réactions des adultes qui. Parce que les adultes, ils partent du postulat que, ouais, il y a des fantômes. Enfin, ça les. Ils remettent pas du tout en question la parole des enfants. C'est, pour eux, c'est tout à fait, ouais, ok. L'école, elle est hantée et tout. Mais par contre, des fois, ils abandonnent des enfants comme ça, sans trop se poser la question. Bon, bah, ok, il faut que tu retrouves tes potes. Et ben, allez, bonne chance, hein, bon courage. On se dit, mais jamais on laisserait des enfants tout seuls comme ça dans une maison, enfin, dans une école abandonnée, tu vois.
Mais il y a un côté. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est hyper japonais. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le Japon, qu'en termes de. Moi, par exemple, à chaque fois que j'y vais, je croise des enfants de genre 5 ans qui vont tout seuls à l'école, qui reviennent tout seuls. On ne voit pas ça ailleurs. C'est parce qu'au Japon, y a pas beaucoup
ils sont hyper autonomes, quoi.
Oui, et puis il n'y a pas beaucoup de criminalité et tout ça. Enfin, évidemment, tout est à relativiser. Je ne suis pas en train de dire que c'est idyllique ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est beaucoup plus safe, notamment pour les gamins. Et je pense que ce côté-là, ouais, par exemple, quand la toute petite fille, elle va chercher ses affaires à l'école, il n'y a genre personne dans l'école, il n'y a pas de prof, il n'y a rien, et elle revient après les cours. Enfin, je veux dire, il n'est pas 22h, quoi. L'école, elle vient de finir, elle était à 15 mètres plus loin dans la rue, elle revient, il n'y a plus personne, quoi. Et figure-toi que ce n'est pas la première fois que je vois ça dans des films, et pas forcément que dans des films d'horreur. Donc j'ai l'impression que c'est un truc, limite, l'école, elle est ouverte, surtout que c'est dans une ville de campagne que ça se passe, parce qu'on a une enfant qui dit à sa mère, ouais, moi je veux retourner à Tokyo. Donc on sait que c'est à la campagne. Donc en plus, il y a ce côté-là à rajouter. Donc c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que je crois qu'effectivement, ça fait partie du film. Il y a ce côté japonais où, ah bah, il est où l'enfant? Bon, je crois, il
est là. Personne s'en inquiète trop, quoi. Voilà. C'est en pleine nuit, les gosses, ils sont enfermés dans une école et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'en inquiète ou pas tant que ça. Enfin voilà, ils sont. Mais ça, c'est un petit côté, je dirais, c'est presque le syndrome Club des 5. Quand tu lis le Club des 5, c'est leurs parents, ils leur donnent une bouteille de limonade et deux tranches de jambon et ils les laissent au milieu de la montagne en disant allez, bonnes vacances les enfants. Alors que personne ne ferait ça aujourd'hui, tu vois. Et là, c'est pareil, c'est genre allez sauver vos potes qui sont dans une école hantée, bonne chance, je te laisse faire le rituel sacré, bisous, tu vois. Et genre, ouais, ok. Mais ça ajoute un petit charme, je trouve.
Ouais, c'est le côté fantasy aussi. Les enfants peuvent être les héros aussi. Et là, d'ailleurs, c'est génial, là, encore une fois, ce personnage de la jeune maman, quand elle vient avec ses motards, elle lui dit, voilà, je t'ai amené des gens, ils sont à ton service. Et c'est le petit gamin qui donne les ordres, quoi. Et t'as tous ces motards qui sont des espèces, ouais, de posuzuku, donc des espèces de petites frappes, quoi, des petits voyous qui vont aider le gamin à faire ses gribouillis mystiques. Ouais, c'est incroyable. Mais quand t'es gamin et que tu regardes ça, ça fait un peu rêver, quoi. Tu dis, toi aussi, tu peux être le héros, c'est toi qui viens sauver... qui vient résoudre les problèmes. Tout comme, il y a un moment, il y a la grande sœur qui cherche sa petite sœur. À un moment, elle arrive à sortir. Et puis, quand t'as la maman qui dit, bon, moi, je vais aller chercher mon fils dans l'école, elle dit, maman, je viens avec vous. Et les gamins, elles viennent et les adultes sont, bon, d'accord. T'sais, un peu en mode, non, que cela, t'as un enfant. Moi, je suis l'adulte, j'y vais. Non, c'est les enfants. Ils participent à l'action vraiment au même titre que les adultes. D'ailleurs, à partir du moment où le prof est là.
Ah, mais il est inutile, le prof. Je le trouve mou du bulbe.
Ah non, il est incroyable. Il y a un côté vraiment où le film veut que les enfants soient au premier plan. Du coup, même quand le prof arrive et que tu dis, ah, il va venir les aider, limite, il y a un enfant qui lui dit, d'ailleurs, limite, il rend les choses pires parce qu'à chaque fois qu'il arrive, il est avec un fantôme et t'as un gamin qui lui crie, hey, vous arrêtez pas d'apporter les fantômes avec vous. Il lui comprend pas pourquoi, mais ouais, il y a un côté où limite, il empire les
et
choses.
Puis on comprend un peu que ce prof, c'est un grand enfant, en fait, aussi. On parle à un moment du fait qu'il va bientôt se marier, mais qu'il n'a pas trop envie et tout. En fait, ce n'est pas choquant qu'il soit avec eux dans le groupe un peu Club des Cinq, parce que lui-même est un adulte avec un esprit d'enfant. Donc, ça marche aussi. Et c'est pour ça qu'il est un peu perdu et qu'il ne prend pas vraiment de vraies décisions, parce qu'il pourrait limite tous les prendre sous le bras et dire « Allez, on se casse ». Mais non, il ne le fait pas. Donc, mais ce n'est pas spécialement... C'est ça.
C'est un gamin parmi les autres. Et en plus, il y a plusieurs scènes qui vont dans ce sens-là. T'as complètement raison, parce que il y a les moments où il parle avec l'autre prof, où la prof lui demande s'il raconte pas des histoires un peu bizarres à ses élèves ou quoi, parce que c'est un peu aussi un clin d'œil au prof original qui a compilé toutes les histoires, quoi. Il est intéressé par ce genre d'histoire lui aussi. Et en plus, il est confronté un peu à son passé d'enfant. Auquel il bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails,
ouais.
Ici,
ah
mais
oui,
c'est intéressant.
Lui-même, il a une histoire, ouais. Ouais. Il a une histoire dans l'école, c'est vrai. En fait, ça lui fait presque un flashback, quoi, toute cette
complètement.
Aventure.
Complètement. Et cette aventure-là lui permet de faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire quand il était enfant, finalement. Il y a ce côté-là. Et peut-être, parce qu'on parle aussi un peu de rite initiatique avec le film, dans le sens où, tu sais, c'est la fin de l'année. Ce qui veut dire que bah, les enfants sont dans une phase où ils grandissent, puisque l'année d'après, ils seront un peu plus grands. Et du coup, il y a ce truc où ils sont confrontés à plein de choses du passé, et notamment à la mort, sous une forme un peu particulière pour un film d'horreur. Ils sont un peu confrontés directement à la mort. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi... C'est pour ça que Mylène, je crois que tu as totalement raison quand tu dis que c'est un film pour adolescents. Parce que là, on parle des enfants, ils grandissent avec ce film-là. Et c'est pareil pour le prof.
C'est une façon de dire au revoir à l'enfance, en fait. C'est vraiment un coming of
age. Exactement. Et le prof, c'est limite pareil. Il avait peut-être que pour être un adulte accompli, il avait besoin de vivre aussi cette aventure-là. Il y a vraiment ce côté-là dans le film. C'est fait évidemment de façon légère, pas du tout pompeuse ou quoi. Et c'est justement pour ça que ça marche, je pense. Puisque le film se prend pas la tête, il raconte ça de façon très naturelle. Et du coup, ouais, bah, y a, c'est pour ça que c'est aussi feel good comme film. C'est vraiment ce côté passage à l'âge adulte. Non, même pas passage à l'adolescence, petit à petit. Ouais. Et surtout, quand on a des enfants, oui. Ils sont tous d'âge différent. Ça aussi, c'est intéressant. Ils ont tous à un moment différent de leur enfance, quoi. Donc, je trouve ça aussi chouette comme idée. C'est pas quatre enfants qui... En plus, ils se connaissent pas vraiment au début. C'est des enfants qui se croisent, ils sont pas dans les mêmes classes. Ils connaissent un peu les noms des autres et tout. Il y a des filles, des garçons. Vraiment, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. C'est une très bonne idée, je pense.
On va passer à Mathieu. Déjà, Mathieu, est-ce que tu es vivant?
Alors, moi-même, je me pose la question. Mais... Voilà, bah vous entendez. Grosso modo, je lutte depuis une demi-heure pour pas tousser dans le micro. Mais voilà, j'ai une crève carabinée, donc je vais essayer de faire court. D'autant plus que voilà, vous avez dit pas mal de choses que je voulais dire aussi de mon côté. Mais grosso modo, voilà, pour moi, ça a été aussi une découverte. J'ai adoré vraiment le voir enfin, parce que j'en avais un petit peu entendu parler sans vraiment mettre forcément d'image dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai l'impression que c'est une espèce de film, peut-être pas la croisée des genres, mais qui arrive à un moment où un certain cinéma a tendance en fait à se raréfier, voire même à disparaître, et un autre commence en fait à émerger. Je m'explique, le film sort en 1995, et justement ce qu'on disait avant, enfin ce film à destination des enfants ou des jeunes adolescents, c'est quelque chose en fait qui a tendance à se peut-être pas disparaître mais à devenir de plus en plus rare, là où dans les années 80 on avait justement des euh, les Goonies, Monster Squad, ce genre de trucs, ou même des films dont les héros étaient des jeunes enfants qui vivaient des fois des choses assez, assez compliquées, enfin, Stand By Me notamment. Ce genre de film à destination d'enfants, un petit peu effrayant, on n'en voit plus forcément des masses, quoi. C'est soit, encore une fois, des films pour les tout petits-petits, soit directement pour des grands adolescents qui sont déjà à la fac, qui ont déjà une sexualité active et tout. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque, j'étais un petit peu nostalgique de ce genre de film où je voulais en fait avoir ce que j'avais vu quand j'étais... Quand j'étais gosse, quoi, quand je regardais en boucle les Goonies et compagnie. Et là, c'est typiquement le genre de film que j'aurais adoré voir si j'avais eu une petite dizaine d'années, et je l'aurais montré à tous mes potes au collège, quoi, parce que vraiment, quand je l'ai vu, je me suis vraiment mis dans la peau du Mathieu qui avait 9-10 ans, quoi. Et vraiment, j'ai surkiffé le truc. Et le film, il est aussi une espèce d'objet un petit peu bizarre, un petit peu bâtard, parce que il est à la croisée entre plusieurs trucs, notamment en termes d'effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il mélange des techniques qui datent d'avant la révolution numérique. Donc il y a une scène qui se passe tout en stop motion, on a des maquillages à l'ancienne, donc en dur, qui donnent des fois de très très beaux résultats, notamment un monstre avec une transformation dont on a déjà parlé, que je vais pas spoiler, mais qui est vraiment très impressionnante et qui est une bonne usine à cauchemar, je pense, si en fait on a un gamin qui a pas forcément l'habitude de ce genre de film. Enfin, je trouve ça vraiment vraiment très réussi. En plus, si on est un enfant japonais qui connaît un petit peu toutes les légendes autour des fantômes qui hantent les écoles, tout ça, ben effectivement, il y a des grosses restas dans le film, comme Az l'a mentionné juste avant. Et c'est un film aussi qui commence à incorporer petit à petit des éléments en image de synthèse. Je pense notamment au ballon qui rebondit au fait au début du film. Et pour moi, c'est vraiment une espèce de film hybride qui annonce en même temps ce que va être le cinéma japonais dans les années 2000. Et qui a aussi un petit pied dans le passé. En fait, ouais, le film a un petit peu le cul entre deux chaises, dans le sens où il annonce un petit peu ce que va être le cinéma japonais dans les années 2000, parce que, voilà, comme disait Az, Ring, c'est 1998, donc on n'est pas encore là-dedans. Mais d'un autre côté, il y avait déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de fantômes avant Ring, avant que le truc n'explose et devienne une espèce de vague mondiale. Et on n'est pas tout à fait non plus dans les règles en fait que doit respecter un bon film de la J-horror et tout. Le film en transgresse quand même pas mal, quoi. Donc voilà, c'est une espèce d'objet un petit peu étrange, un petit peu bâtard, mais que moi j'adore parce qu'on trouve énormément de choses qui semblent provenir de plein de d'époques et de genres différents. Il y a notamment une scène qui m'a fait penser vraiment à House, qui est sorti récemment, je crois, chez Potemkin, si je dis pas de bêtises, où à un moment donné, les gamins sont dans le couloir et on entend une espèce de bruit sourd, et là, ils se retournent, et il y a un truc gigantesque qui apparaît, qui est tout simple, mais qui est juste terrifiant. Et je pense que c'est... même si les monstres, en fait, ils sont réussis, ils font peur, tout ça, bon, à part peut-être la pastèque, ce truc-là, je me suis dit, putain, mais c'est du génie, quoi. C'est du génie. Enfin, si j'avais vu ça, en fait, à 10 ans, j'aurais été mi-fasciné, mi-terrorisé. Et je trouve que c'est vraiment... C'est une anomalie, mais qui fonctionne, en fait, parfaitement encore en l'état, et qui est à la croisée des genres, à la croisée des époques, à la croisée des techniques, et au final le film est bien plus intéressant que ce qu'il laisse paraître.
Et bon, et j'ajouterais même une petite chose, c'est qu'il fait beaucoup penser à l'esthétique manga du grand maître des mangas d'horreur, Kazuo Umetsu. Vous le connaissez sûrement pour L'école emportée, et d'ailleurs ça fait penser pas mal à L'école emportée sur certains points d'ambiance, etc., et même d'esthétique.
Bah, tu viens de me piquer mon point, donc on va finir le podcast, hein. Partons comme ça.
Super. T'avais peur, Romain. Bon. Et ben voilà,
j'ai dit avant le podcast, dire un truc très précis à citer, et je suis sûr qu'il va le citer, et t'as fait ta partie sans le citer, j'étais très content, je me dis, ok, je vais pouvoir parler un peu de manga, tu vois, et là, en sniper, t'arrives, et tu lâches ça, bon.
En plus, toi, ta culture manga, elle est 100 fois supérieure à la mienne, donc c'était vraiment le point manga. Je l'ai vu dans tes yeux, Romain, j'ai fait, il faut que tu parles de Kazuo Umetsu, il faut que tu le fasses.
ouais, lisez L'école emportée, c'est un manga des années 70 où une école disparaît littéralement de sa rue, et on retrouve cette école quelque part dans une sorte de wasteland, et les gamins sont encore dedans et se disent, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent survivre dans cette école, sur un endroit en fait où il y a rien, voilà, sans trop en dire. Et mon point en fait, c'était que du coup l'école au sein de l'horreur à la japonaise, et je dis bien l'horreur et pas le cinéma d'horreur, c'est un truc qui est là depuis des décennies en fait. C'est vraiment le truc qui va traverser toutes les décennies et être adapté à toutes les sauces, animé, manga, cinéma et tout. Et voilà, c'était ce que je voulais dire. Et c'est un des peut-être un des meilleurs représentants, ce film, puisque c'est peut-être un des films d'école les plus réalistes dans sa manière de montrer les gamins, je trouve.
Non.
Un peu chaotique, plutôt bien écrit et tout, ça joue plutôt bien, je trouve. Parce que faire jouer des gamins, c'est toujours un peu compliqué. Les wannabe goonies, ça peut vite devenir chiant quand c'est pas des très bons acteurs ou que tu diriges pas bien tes gamins, quoi. C'est dur de faire jouer des enfants comme il faut. Le premier truc qui m'a choqué quand j'ai vu le film, outre la pastèque méchante qu'attaque un mec de la séquence d'introduction, et je dis bien qu'elle est méchante parce qu'elle se retourne et elle a un sourire méchant, tu vois. Il monte bien, quand même. C'est à quel point le film, il est bien shooté. Je sortais des villes Dead Trap quand je l'ai vu, donc ça change un petit peu en termes de cinématographie, pardonnez-moi, sans dire que Evil Dead Trap est mal shooté, c'est même très joli, mais c'est un peu crado, en fait. Là, c'est très clean, c'est très bien cadré, il y a des vrais mouvements de caméra hyper pro, hyper bien faits. Et à ma grande surprise, j'ai été checker un petit peu, j'ai fouiné, le chef-up, c'est Kozo Shibasaki. Est-ce que vous savez qui c'est ? Il a shooté un truc récemment qu'on a tous vu, et même un truc qui a gagné un Oscar.
Ah, Godzilla ?
Godzilla Minus One, c'est lui qui est derrière l'image de ce film, qui est un film magnifique en fait. En fait, il a fait que des dingueries en termes de film où il est chef-op. Et c'est une des grosses forces de ce film, qui a beau avoir quand même 30 ans maintenant quasiment, il tient encore bien la route visuellement, malgré quelques effets spéciaux vintage, comme vous les avez dit. Il est hyper beau. Il y a une version qui circule qui est plutôt propre, restaurée en tout cas, ça a l'air d'être un
Blu-ray.
Il y a un Blu-ray qui est sorti aux États-Unis.
C'est ça, bah c'est ce Blu-ray là qui circule et qui est très très propre. Donc franchement, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus crado, un peu plus vieille pellicule et tout. Quand tu as débarqué et que tu nous as dit bah, prenez ce film là, c'est un peu obscur, je me dis ah, film obscur c'est souvent un petit peu plus compliqué à trouver en bonne copie. Et non, putain, c'est magnifique quoi. Et le pire c'est qu'en effet, tout comme Amélie, quand tu nous as envoyé un film, je me suis dit putain, il va nous envoyer Guinea Pig. Et en fait.
Ah bah non, mais tu m'as demandé de la J-Horror. Moi, oui, je respecte, je t'envoie pas. Non,
t'es resté dans le thème, mais t'aurais pu choisir un truc japonais, en fait, et nous le balancer dans la gueule en mode tenez, prenez ça, prenez votre traumatisme, et bam. Et c'est cool, j'avais peur que ça fasse redite, tu vois, Evil Dead Trap ou un autre truc un peu trash.
Ouais, non, mais il y a plein de raisons pour lesquelles je trouvais que c'était un bon choix, honnêtement. Parce que déjà, personne, à ma connaissance en francophonie, en tout cas sur Internet, n'a parlé de ce film. Ou alors des trucs très obscurs quoi, et qui l'ont peut-être très bien fait hein, que personne ne prenne mal ce que je viens de dire.
Ne pas se faire des ennemis. Ne pas se faire d'ennemis.
Et là, la sauce.
Un blogueur qui va venir m'agresser. Non, il a sûrement très bien fait ça, mais je veux dire, c'est pas un film dont on parle beaucoup en tout cas. Et moi, c'est ça que je voulais. Je voulais un film obscur dont on pourrait parler entre nous, mais qui respecte le thème de la J-Horror, mais sur lequel il y avait aussi des choses intéressantes à dire, quoi. Parce qu'en fait, on tombe vite dans le piège. J'aurais choisi un film et en fait, on aurait passé notre temps à parler, à le comparer peut-être à Ring, par exemple. C'est-à-dire, il y a un peu ce piège-là quand on parle de J-Horror, je trouve, à Ring ou à Drone ou à d'autres.
Il y a l'évidence.
Oui, c'est ça. Alors que celui-là, comme il sort vraiment, c'est pas un sous-Ring, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas un sous-Drone, c'est pas un sous-Ring. Donc il a ses qualités propres, ses défauts propres aussi, mais ça le rend beaucoup plus intéressant que si j'avais dû choisir un film de genre obscur qui est forcément quasiment toujours un petit peu un sous-ring. Même quand ils sont bien, il y a souvent ce côté-là. Ou alors, c'est d'autres films assez connus. J'ai hésité à vous proposer Noroi, The Curse de Koji Chiraichi.
Mais on le fera un jour, lui, de toute façon. C'est...
Ouais, mais tu vois, c'est un film qui dispose déjà d'une certaine cote, on va dire, de popularité, même s'il reste, à mon sens, trop obscur. Mais ça n'a rien à voir avec Haunted School, quoi. Là, c'est pour moi vraiment une pépite, quoi.
Noroi the Curse, tu peux encore en parler avec les passionnés. Il n'est pas très, très connu en France, en tout cas, parce qu'en fait, il n'est jamais sorti.
Non, mais il est sorti en Europe. J'ai une édition allemande, par exemple. Donc,
il a été restauré en plus maintenant.
Ouais. Et ça reste un des found footage qui revient le plus souvent dans les débats quand tu commences à en parler aussi. C'est ça qui.
Oui, complètement,
joue. Et Amélie disait l'autre jour que le réalisateur a littéralement en fait spammé le genre du found footage avec ses films.
On est traumatisés. Tous les ans, on en reçoit 3.
Ah ben, Chiraichi, il a réalisé au moins une soixantaine de found footage. J'ai eu la chance de le rencontrer pour mon documentaire. Il est hyper chill en plus, hyper cool. Et des fois, tu lui parles de certains de ses found footage, il te dit ah non, mais on doit vraiment parler de celui-là, il est vraiment nul, on peut pas parler d'un autre. Et en fait,
très honnête.
Ouais, mais en fait, parce qu'il sort 5 films par an, quoi, donc minimum. Donc le gars.
Tous les ans, on en reçoit tellement en programme. Mmh.
Et en plus, ses found footage, souvent, c'est pour la télévision. C'est souvent des trucs, soit pour la télévision, soit directement en DVD. Parce que, par exemple, au Japon, et ça, c'est même pas Koji Chiraichi, t'as une série de films. peut-être maintenant, alors que j'ai aussi rencontré le réel, ça craint. Mais c'est des films à sketch en found footage. Il y a plus de 80 volets qui sont sortis. C'est que ça sort, ça sort jamais du Japon.
Il n'y a pas le mot files dedans, par hasard?
Oui, probablement.
Si, attends. Mais
attention, parce que des séries comme ça, et c'est là où j'allais en venir, il n'y en a même pas qu'une. Il y en a trois ou quatre. Moi, quand je suis allé au Japon la dernière fois, j'ai acheté Okinawa Horror Stories, un truc comme ça. En fait, c'est aussi des films à sketch, en found footage, avec des fantômes. Et il y a quatre ou cinq volets qui sont sortis. Je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler. Je les ai trouvés dans un petit magasin de seconde main de DVD au Japon. Je les ai achetés directement. Parce qu'en plus, comme c'est la même zone que chez nous, bah, c'est génial. Hein, tu les mets dans ton DVD, tu regardes. Bon, tu ne comprends rien, mais tu regardes quand même. Et comme c'était. Et on ne va pas se mentir, tous ces films-là, même sans sous-titres, c'est pas grave. C'est des films à sketch, il y a trois lignes de dialogue dedans, c'est des courts-métrages avec... Bon, voilà, t'as pas besoin de comprendre ce que les personnages se disent au mot près, quoi. Tu comprends vite. Et du coup, on s'éloigne un peu, mais je trouve ça super intéressant, puisque Chiraichi, pour moi, c'est un mastodonte, en fait, de l'horreur japonaise, alors que chez nous, il y en a qui en parlent encore comme un réel émergent, quoi. Tu vois, la nouvelle génération, il fait des films depuis 2000, hein. Il faisait des films à l'époque de Ring, lui aussi. Et d'ailleurs, il a adapté la plupart des légendes urbaines qu'on a citées aujourd'hui. Il a adapté Kushisake Onna, il a adapté Teke Teke, si vous connaissez. Il a adapté vraiment les légendes les plus connues. Et aujourd'hui, il a fait tout un univers étendu avec ses found footage. C'est hyper intéressant. Du coup, si t'as vu les plus connus, en tout cas, bah, les personnages, ils reviennent, ils finissent par se rencontrer dans les films et tout. Et lui-même, il joue un personnage récurrent de ses différents found footage avec son espèce de casquette traditionnelle.
C'est pour ça qu'on en fait pas ici, en fait, parce que c'est pas un épisode d'une heure qu'il faudrait faire sur ce gars. C'est ça, le truc. Il faudrait mater beaucoup de ses films, faudrait limite lui parler, tu vois, qu'il nous explique un peu le délire, et avoir des spécialistes. Alors déjà, faudrait que tu reviennes. Et c'est compliqué déjà de voir ses films, et ça mérite plus qu'un épisode juste sur Noroi. C'est ça, le truc.
Oui, complètement. Noroi, c'est... En plus, c'est pas si représentatif que ça de son
boulot.
Mais
si vous voulez voir un bon film de Chiraichi et que vous êtes lyonnais, on en programme un à On vous ment, et il est, comme dirait Az, pas piqué des hannetons. Voilà.
Est-ce que c'est Safe Word?
C'est Safe Word, exactement.
Ah, incroyable. Bah, je peux le recommander.
On est trop contents de l'avoir.
Très, très belle histoire d'amour.
Et dis-nous, Amélie, c'est quand On vous ment?
On vous ment, c'est du 2 au 5 mai. Voilà. À Lyon.
Eh ben, voilà, les Lyonnais, vous savez,
donc dans plein de cinémas de Lyon et Villeurbanne, au Zola, à l'Aquarium, au Cinéma Lumière, où est-ce qu'on projette encore au Comédia. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site pour regarder le programme. On a plein de belles surprises.
Sachant que Sefford, en Europe, il est sorti encore une fois qu'en Allemagne, en DVD Blu-ray. Il est sorti nulle part ailleurs.
Donc voilà, c'est l'occasion.
Et puis c'est une pépite. Hein. Franchement, c'est une pépite de ce film. Hein.
Je suis d'accord. Il était dans mon top l'année dernière.
Je vous rejoins tous du coup sur le fait que c'est un excellent film pour rentrer le débat sur Haunted School. Ouais. On va dévier pendant des heures sur le found footage japonais, et Dieu sait que c'est un autre épisode de 3 heures qui peut arriver à tout moment. C'est un film qui est dur à trouver. On espère un jour qu'on pourra le voir de manière légale en France, un Blu-ray, une ressortie, avec ses suites, parce que moi aussi j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Mylène, je sais pas si t'as réussi à les choper.
Elles sont sur YouTube ou Dailymotion et tout, mais dans des qualités vraiment dégueu. Enfin voilà, c'est pas... Il n'y a pas de...
Ah, mais il y a un petit trip 2008 là, que moi j'aime bien. Ma télé filme en trois parties sur YouTube dans des qualités dégueulasses.
Non, il n'y a que Lily qui fait ça, c'est interdit.
J'avoue que moi je fais ça maintenant, mais sur VKTube. Sur VKTube, RuTube et tout ça, tu trouves plein de films japonais sans sous-titres.
Move de vrai cinéphile, contrairement à ce que certains nous disent dans nos commentaires au passage. On va finir quand même sur ton actualité. Az, merci encore d'être venu avec ce film. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une super découverte. On est tous contents d'en avoir parlé, de l'avoir vu.
Cool.
Tu as bientôt un festival de cinéma qui arrive.
Et oui, le Cinéma Interdit. On fait notre deuxième édition, donc au Club de l'Étoile et en partenariat avec le Club de l'Étoile. C'est-à-dire qu'ils m'aident à organiser tout ça. C'est à Paris. C'est du 31 mai au 2 juin. Donc vous pouvez tout à fait aller à On vous ment et puis... à Cinéma Interdit, et vous pouvez vous faire un petit trip cinéma, type festival un peu particulier français, ça peut être chouette. Et on va avoir donc un invité japonais d'ailleurs, pour continuer, on boucle la boucle, Yoshihiro Nishimura, grand spécialiste des effets spéciaux, qui est fou dans son domaine, qui a fait les effets spéciaux de dizaines et de dizaines de films, les plus connus étant... pas Godzilla Minus One, mais le Godzilla juste d'avant, dont là, le titre m'échappe.
Shin Godzilla.
tout à fait. Il fait partie de l'équipe aux effets spéciaux, ou alors l'adaptation de Shingeki no Kyojin, ou enfin, et plein, surtout plein de splatters japonais vraiment horribles comme Machine Girl ou ce genre de choses. Et justement, il en a réalisé quelques-uns. C'est même l'un des réalisateurs les plus importants de la Sushi Typhoon, puisqu'il a réalisé des films comme Tokyo Gore Police, sorti avant, ou alors L Driver, par exemple. On va pouvoir projeter ces deux derniers films en date qui ne sont pas encore sortis en France. Il y en a un qui va sortir chez Extra Lucide, qui soit partenaire du festival pour ces projections-là. Un autre qui n'a pas de date de sortie prévue. Et on va passer un de ses anciens films également. Il sera présent pour... habillé cette fois, parce que fut un temps, il y a 15 ans à peu près, il faisait la tournée des festivals partout dans le monde, il était habillé que, tu sais, les mêmes tuniques que les sumo, donc il était comme ça, il courait partout, il était fou, mais de son propre aveu aujourd'hui, il est trop vieux pour faire ça, donc il aura des vêtements, désolé, mais il sera là, il sera accompagné.
Dommage.
je sais, je suis désolé, mais du coup les billets sont un peu moins chers, c'est vraiment pour mon couille. il sera avec l'actrice principale d'un des films qui seront projetés, qu'il a réalisé, et on aura un jury de qualité, et je crois que bah, du coup on peut le dire, vu qu'on est, dans Jumpscare, puisque Mathieu sera dans le jury, et que vous pourrez probablement croiser d'autres membres.
Si je suis encore en vie, ouais, je... En théorie, je serai là-bas.
Ah ben non, même mort, tu feras partie du jury. Même mort, je vous assure.
T'as un squelette, tu sais, qui te fera des tunnels sur le cinéma bis.
En plus, ça sent les discussions de 3 heures avec des mecs comme François Gaillard et Talal Selami, je le sens, ça c'est... On a un jury cette année, donc c'est la première fois qu'on va faire ça. On aura une compétition. Alors évidemment, on n'est pas Gérard May, hein, on n'est pas Le Pif, on est cinéma interdit, donc on fait ça entre nous. La compétition, c'est un peu pour le fun, c'est pour mettre un peu d'enjeu, et aussi pour faire participer le public, parce qu'il y aura pris du public également. Et aussi parce que, bon, bah, moi je suis un peu fier, la plupart des films qui seront dans notre compétition, bah, ils sont passés dans aucun autre festival pour le moment, en France et parfois même en Europe et parfois même dans le monde. On a une exclusivité internationale, je ne vais pas le révéler maintenant, mais je peux juste vous dire que c'est un film hyper bizarre. Alors, je ne dirai jamais, pour aucun des films projetés en compétition, qui sont forcément bons, ok ? Ça n'a jamais été le but de Cinéma Interdit. Nous, on est là pour vous proposer des choses que vous n'allez pas voir ailleurs. Parfois, c'est bien, parfois, c'est moins bien, d'accord ?
Il le vend bien.
C'était déjà le cas l'année dernière.
On te connaît, Az.
Ah, moi, j'adore essayer de sortir de ce dont on a l'habitude. Mais si c'est votre cas aussi, si vous avez envie de voir des films un peu différents, il n'y a aucun film à Oscar à Cinéma Interdit, hein, vous verrez par vous-même. Et il y a des trucs d'un peu partout. On a des films, cette année, japonais, argentin, canadien, français, belge. Enfin voilà, vous allez vous faire plaisir si vous venez. Il y a de tout. Et franchement, c'est la bonne ambiance. Le Club de l'Étoile, c'est une très belle salle. Et bah voilà. Et puis si tout ça, c'était pas assez pour vous convaincre, bah, il y aura probablement des membres de Jumpscare qui se baladeront dans les couloirs. Quoi. Donc,
ah oui, bah, il y aura toi déjà, Az. Apparemment, t'es un Jumpscaros.
Il paraît. Mais moi, je suis un escroc. J'essaie de m'attribuer la gloire des autres, tu sais. Jumpscare, bah oui, je connais très bien.
Bien sûr. Je l'ai créé, oui.
Ouais, c'est moi, le créateur officieux. Je tire les ficelles, c'est vraiment le mec. C'est pas vrai du tout, hein.
On n'arrête pas de dire que c'est un podcast nantais, lyonnais et tout. Non, c'est belge, en fait, depuis le début. C'est un piège.
Mais de toute façon, tout est belge. Tout.
C'est vrai.
Ouais, c'est un podcast international, désormais. C'est... Voilà.
Exactement. Bah, saison 2, c'est vraiment l'arc international à fond. On va voir jusqu'où on peut aller. En effet, plus sérieusement, moi, je serai là et Amélie, oui, tu seras là, merci. Apparemment.
Trop, voilà. Trop bien.
On vous voit venir, les followers, les stickers, c'est un peu tôt. C'est parce que ça coûte cher à faire et on est un petit peu pauvre. Mais au pire, on pourra vous payer un Mars, quoi, si besoin.
Normalement, pour cet
mais
été,
le Mars, ça
stickers.
Coûte plus cher que le stickers.
Mais ouais, grave.
J'ai dit que je peux payer un Mars. J'ai pas dit que je peux payer
vous
deux
Mars. Vous le partagez.
Vous aurez un Mars.
Romain, il y aura
démerdez.
Des stickers cet été. Cet été, il y aura des stickers.
Il y aura des stickers à un autre événement qui arrive bientôt qui s'appelle le Stabaton.
Mais il y aura des stickers.
Normalement, il y aura des stickers parce que Mylène va me taper si j'apporte pas des stickers, je pense. mais voilà, en tout cas, on se verra soit on vous ment pour certains, soit à Cinéma Interdit, soit au Stabaton en termes d'actualité.
C'est pas mal, hein, en termes d'événements.
Ouais, ça bombarde beaucoup ce temps-ci, là. On est tous occupés, c'est vraiment trop bien tout ce qui se passe, ça fait plaisir. Merci d'être venu, Az.
Ben, merci pour l'invitation, c'était très cool. content que vous ayez aimé le film. J'avais un peu peur de ça, tu sais. J'ai un peu trop, j'en ai marre en étant proposé des films, et après, pendant une heure et demie, les autres disent que le film, bah, c'était à chier, quoi. Et qu'il y a que moi qui dis c'était génial. Alors,
tu noteras, je crois que Romain en pense à la même chose.
Ouais, en fait, le danger est écarté pour ce soir en termes de présence. Tout va bien. C'est pas un podcast aigri, mais il y a une épée de Damoclès des fois qui tourne autour des films, qui commence par un D. Il est pas là ce soir, malheureusement son PC a
d'accord,
explosé.
Oui.
Comme un signe,
du
destin.
T'as
un
eu un peu de chance.
Destin, son PC.
Non, mais de toute façon, j'ai l'habitude que les films que moi je présente comme limite des chefs-d'œuvre soient considérés comme des navets impossibles à regarder par les autres, j'ai l'habitude.
C'est l'histoire de ma vie, je comprends.
Oui,
la comète.
Non, mais faut savoir qu'avec As sur Sens Critique, parfois on est les seuls à noter les films, genre on se voit que tous les deux, et genre on a vu des purges pas possibles, genre des 2 sur 10, tu vois.
Ouais, c'est pour ça que quand les gens viennent me dire que tel film, techniquement très correct, c'est 1 sur 10, je me dis, mais non, mais t'as pas vu un film qui vaut 1 sur 10. Parce
c'est
que
ça,
tu le sais quand
pareil.
Tu vois le film.
Bah ouais, genre c'est... tu sais pas ce que c'est qu'un vrai 1 sur 10, sinon tu le saurais.
Ouais. Tu sais, le film, il commence, tu regardes la photographie, tu fais « Ok, 1 sur 10 bah, ». Ça fait 2 secondes, je sais que ce sera un film
c'est ça,
1 sur 10.
Tu le sais, tu dis « Ok, je me casse
». Et alors que non, on sait que tu te casses pas, tu regardes jusqu'au bout, et puis tu vas sur Sens Critique mettre ton 1 sur 10, voilà.
C'est grave.
Voilà, vraiment de belle vie, quoi.
C'est honteux. Écoutez, c'est
voilà.
Fini pour aujourd'hui. Encore merci Az, encore merci bien sûr Mathieu qui a survécu. Merci Mylène, merci Amélie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, JumpScarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si vous êtes sur Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour un film bien licor comme on les aime. Un certain Aerobic Killer.
Mais non, aïe. Incroyable.
Va dépoter, c'est un slasher.
Il n'y a plus aucune ligne directrice dans cette ligne édito. C'est saison 2, elle part en vrille au bout du 6e épisode. D'ici là, bonne semaine à vous et portez-vous bien. Salut.
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 Ciao.